Radio Campus Orléans 88.3 FM. Radio Campus Orléans 88.3 FM. Radio Campus Orléans 88.3 FM.
Écoute ta fac. Écoute ta fac. Tous les jours de midi à 13h sur Radio Campus. Écoute ta fac, c'est des reportages, des chroniques, de la musique, mais surtout de la bonne humeur.
On va la refaire celle-là.
Et bonjour à toutes et à tous, il est midi sur Radio Campus Orléans, 88.3 sur vos postes radio. Et aujourd'hui, au programme dans Écoute ta fac, on va continuer notre série qui est dédiée à bien préparer votre entrée avec Marianne, que vous connaissez peut-être sous le nom de Studigrammeuse. Aujourd'hui, on parlera donc de ce qu'il ne faut pas faire, selon elle, pour votre rentrée universitaire. Puis, on enchaînera à partir de midi 30 avec le coup de gueule de Steven, comme chaque jour. Et aujourd'hui, on parlera du Niger. Et puis, enfin, on terminera tranquillement cette émission en musique. Voilà, c'est le programme aujourd'hui dans Écoute ta fac. Profitez. Et surtout, on va commencer tout doucement avec le titre Coup d'Istro de Niolika.
We'll be right back.
C'était Ronde et Chanson que vous venez d'entendre à l'antenne de Radio Campus Orléans. On va passer à la suite de l'émission Écoute ta fac, en évitant de bugger comme le dernier titre qui vient de passer. Et pour ça, Marianne, que vous connaissez peut-être sous le nom de Studigrammeuse, va vous passer quelques conseils à ne pas faire en fait pour votre entrée universitaire. On l'écoute.
Te parler de ce que tu ne dois surtout pas faire à l'université. Cela a pu me démoraliser et même parfois m'empêcher de bien vivre ma vie étudiante. Donc, je vais vous parler de ce qu'il ne faut pas faire pour éviter à votre tour d'être démoralisé en vous exposant à ces quatre choses à ne pas faire à l'université. Aujourd'hui, on est avec Faustine. Bonjour Faustine.
Bonjour Marianne. Donc, moi, je me présente. Je suis en première année. Je rentre en deuxième année maintenant sur Sciences Po Paris, sur le campus de Dijon. Voilà.
Et aussi, nous sommes avec Lucie. Bonjour Lucie.
Bonjour. Moi, je suis en LINCOM, Linguistique et Communication, sur le campus d'Orléans. Je suis en première année de master.
Et on est aussi avec Rodrigue. Bonjour Rodrigue.
Bonjour.
Alors moi, je suis en licence de droit européen à l'université d'Orléans.
Donc aujourd'hui, nous allons parler de ces choses qu'il ne faut surtout pas faire à l'université. Déjà, avant de commencer, est-ce que on vous a déjà dit un jour ce qu'il fallait surtout pas faire à l'université ? On vous a déjà prévenu en particulier ?
Pas du tout, mais on m'a dit que si j'entrais à l'université, il fallait que je renonce soit à ma vie sociale, soit au travail, soit à quoi ? Il y avait trois facteurs un peu comme ça, et il faut choisir entre chacun de ces facteurs.
Je crois que c'était le sommeil, non ?
Oui, le sommeil, c'est ça.
Sommeil, vie sociale ou travail.
C'est ça.
Moi, j'ai pas de souvenirs en soi de choses qui m'ont particulièrement marqué. Après, ça a dû être le cas, mais si, on a déjà dû me dire qu'il y a des moments où je pourrais plus rien faire d'autre que travailler, et au contraire d'autres, on m'a dit « il faut que tu t'amuses, c'est le moment », etc. Donc j'ai eu plusieurs conseils différents, quoi.
Parce que justement, moi, le premier conseil que je donnerais, c'est de ne pas écouter cette chose-là, de faire un choix entre vie sociale, sommeil et travail. Avec de l'organisation, on peut tout faire. Et c'est vrai que ça, c'est un truc dont on parle souvent, parce qu'on voit, je pense, autour de nous, des gens qui vont nous dire « moi, je fais que travailler et dormir, ma vie sociale, c'est mort ». Mais je pense qu'on vit tous différemment à l'université, et donc le premier conseil que je donnerais, c'est vraiment de ne pas se comparer aux autres. Parce que je trouve que ça favorise déjà une sorte de petite compétition. Et en plus de ça, ça augmente le stress et l'anxiété. Je ne sais pas ce que vous en pensez autour de la table.
Bah ouais, je suis d'accord. Et puis c'est surtout qu'en plus, en général, quand tu te compares aux autres, bah les autres se comparent aussi à toi et aux autres autour de lui ou d'elle. Et donc, en fait, ça forme toute une façade où on est tous en train d'essayer de correspondre à ce que l'autre attend. Et pas donner la réalité derrière. Moi, j'ai un petit exemple, c'est-à-dire que au début, tout le monde soit disait qu'il travaillait pas du tout, qu'il n'arrivait pas du tout à travailler, etc. Alors qu'il travaillait beaucoup. Au contraire, d'autres disaient qu'ils passaient leur temps à travailler, alors qu'en vérité, dans les deux cas, la réalité, c'est pas vrai. C'est-à-dire que tu peux pas passer tout ton temps à travailler et tu peux pas passer tout ton temps à ne rien faire et tenir la route quand même à côté.
Mais surtout qu'on n'a pas tous les mêmes besoins. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui ont besoin de beaucoup de contact social, l'autre moins, etc. Donc c'est vrai que se comparer... La haine incite la haine, finalement.
Oui, tout à fait, Lucie.
Après, se comparer aussi, il y a le système dans lequel on est qui nous pousse énormément. Parce qu'il y a certaines universités qui prennent en compte les classements. Et pour certaines personnes, il y a aussi cette optique de vouloir rentrer dans un master et qui pousse en fait à la comparaison et à se dire est-ce que je suis quand même assez bien situé dans ma promo pour pouvoir par la suite avoir le master que je souhaite. Et puis enfin même durant toute la scolarité, on est quand même avec des notes, durant même nos TD, on est confronté quand même à la note en face de nous et la comparaison, ça se comprend qu'elle vienne naturellement. Mais il faut se rappeler, je pense, le plus important, c'est que on se dessine un peu le parcours qu'on a envie, oui. Et que c'est ça qui compte. C'est si vous connaissez pas ça, c'est pas grave. Enfin moi, typiquement, si aujourd'hui je devais retourner au collège, j'aurais clairement pas les. Enfin je m'en sortirais mieux. Et pourtant, au collège, j'avais pas des 20 sur 20. Mais c'est pas que j'ai pas les compétences, c'est que Enfin, c'est pas que je n'allais jamais avoir les compétences, c'est juste que on est évalué aussi sur un moment T, un moment précité de notre vie, mais ça veut pas dire que vous aurez jamais les compétences qu'on ne vous accorde pas aujourd'hui, qu'on ne vous reconnaît pas aujourd'hui.
Ouais, ça, je pense que le concept, c'est un peu de la comparaison de la bienveillance avec la justesse. C'est la justesse envers soi et la justesse envers les autres. Les autres ne sont pas 10 000 fois meilleurs que vous. Vous n'êtes pas entouré de Einstein autour de vous et vous n'êtes pas moins bien que les autres. Et à l'inverse, vous n'êtes pas le Einstein par rapport aux autres non plus. C'est important d'essayer de... C'est facile à dire d'essayer de prendre du recul, etc. Mais de discuter avec des gens bienveillants autour de soi sur ça.
C'est clair. Surtout qu'on a tous des parcours plutôt différents, on vient tous de milieux différents. Et c'est clair que quelqu'un qui a été habitué toute sa vie à travailler du matin au soir va être peut-être plus efficace, plus productif dans ce qu'il va faire, alors que d'un autre côté, non. Et puis même quand je prends rien qu'à l'université d'Orléans, et je pense dans toutes les universités c'est le cas, par filière, en fait, il y a des options qui changent, des choses qui changent. Donc, ce qui fait que rien qu'en termes de notes, comme tu disais, en fait, on peut même pas forcément se comparer d'un prof à l'autre, c'est pas la même chose. Et du coup, se comparer aux autres, ça mène justement à une deuxième chose, c'est à la compétition. Et moi, je pense que ce qu'il faut vraiment mettre en avant, c'est que la faculté, c'est vraiment pas une compétition. T'as 10 sur 20, tu passes l'année supérieure. Donc, on s'en fout des autres tant que toi, t'as réussi. Alors, exception quand même à la faculté de médecine, puisqu'il y a quand même un concours. Mais pour le reste des filières, vraiment. C'est chill. Mais je sais pas si vous, ça vous arrive. En tout cas, nous, en filière de droit, ça se ressent, une certaine compétition. Est-ce que vous pensez que dans des filières, il n'y a pas cette compétition ?
Moi, du coup, je peux en parler parce que je suis dans un cursus un peu différent aussi du vôtre. Je suis pas à la fac. Je suis dans une école qui est du coup Sciences Po. Et c'est vrai que la compétition... moi, je suis pas quelqu'un de compétitrice de base. Donc... c'est pas forcément un but en soi, mais c'est vrai qu'elle se ressentait dans l'école, ce truc de... Puis je pense aussi, c'est difficile pour beaucoup d'intégrer que au lycée, t'étais un peu, j'aime pas le terme, mais un peu dans la tête de classe, et tu arrives et il y a que des têtes de classe autour de toi, et du coup, ça fait que t'es dans la moyenne, voire la moyenne basse. Et il y en a, c'était très difficile, parce qu'en fait, c'est une partie de leur identité. Et du coup, la compétition, elle montait très très vite. Et en même temps, c'était une compétition un peu chelou. Parce que c'était une compétition sans dire que c'était une compétition, tu vois. C'est-à-dire que tout le monde dit on est copain-copain. Et en même temps, tout le monde se compare. Ça revient avec la comparaison, en fait. La compétition aussi. Alors que, littéralement, nous aussi, il nous faut un 10 sur 20 pour passer. Donc, la compétition, elle n'a même pas lieu d'être, finalement.
Moi, dans ma filière, la compétition, j'ai l'impression que c'était moins pire qu'au lycée. Au lycée, c'était il y avait beaucoup ce truc de on regardait toi t'as eu combien et toi t'as eu combien et toi t'as eu combien. Alors qu'à la fac, on est de moins en moins. Du coup, on se connaît de plus en plus entre nous et il y a plus une solidarité qui s'installe au fur et à mesure des années.
Ouais, ça, donc, je rebondis un peu sur ça parce que j'ai l'impression que moi, la compétition, au fur et à mesure du semestre, elle a un petit peu diminué. Après, c'est aussi parce que j'ai des groupes d'amis différents, etc. Donc peut-être que je me penche moins dessus. Mais j'ai eu là quand même cette impression que ça a diminué au fur et à mesure qu'on a plus appris à se connaître et voir qu'en fait, l'autre, c'est moi et moi, c'est l'autre.
Ouais, moi, la compétition, c'est quelque chose qui me met très mal à l'aise. Il y avait un peu un système... de rendre les devoirs sur Selen, enfin sur les plateformes en ligne, et on pouvait accéder aux devoirs des autres. Et tu vois que les autres... Ah oui, oui, oui.
C'est affreux.
Oh oui, et tu vois que les autres ont fait des trucs énormes, et toi, tu n'as même pas compris la consigne.
Après, il faut se rassurer quand même sur la compétition. Je sais que, pour le coup, dans ma filière en droit, dans ma promo globale, hein, pas ma promo droit histoire, nous, on était chill, mais la promo globale, il y avait des gens qui étaient très compétitifs. Et très rapidement, sachant que c'est quand même pas la majorité des gens, enfin, ils se retrouvaient tout seuls face à leur propre compétition. Mmh. Et ils étaient mal tout seuls. C'est juste que c'est clair qu'au début, quand t'es confronté à ces gens-là, forcément, tu stresses, tu flippes, oui, t'as purée, en fait, je suis moins bien, je suis mieux. Enfin, forcément, tu vas essayer d'être meilleur ou quoi, mais finalement tu te rends compte arrivé en troisième année que ces gens-là ils sont seuls et c'est juste parce que ils ont rien d'autre à faire en fait.
Et moi des fois j'ai l'impression que une surcompétition, des fois la compétition ça peut être aussi nécessaire pour se booster, même si j'aime pas ça, tu vois. Mais la surcompétition, j'ai l'impression que ça cache aussi des complexes, tu vois.
Totalement.
Après, Je sais pas, mais la compétition, moi, je l'ai pas trop ressenti en droit parce que, alors, avec Lucie et Faustine, vous disiez comme quoi, vous, il y a aussi le fait que vous étiez pas hyper nombreux. Moi, justement, le fait qu'on soit aussi nombreux en droit, en fait, on se connaît pas. Du coup, j'en ai rien faire des notes de mon voisin, je ne le connais pas. Et surtout, pas oublier que quand vous allez à l'université et que vous étudiez avant tout pour vous.
Pour vous,
exactement. Donc, ce qui est le plus important, c'est de comprendre sa note, de comprendre en quoi je correspond pas aux critères, parce que les notes, c'est avant tout ça, c'est des critères, et ça, faut bien se le rappeler, c'est je correspond à telle note, à tel critère qui m'est fixé. Et chaque filière a ses propres moules, chaque filière a ses propres méthodologies. Du coup, si vous êtes dans cet esprit de compétition, la meilleure chose à faire, je pense, c'est de comprendre le cadre dans lequel vous inscriviez, de comprendre la méthodologie qu'on vous demande d'acquérir, et en fait de travailler dessus, c'est-à-dire de prendre le temps de vraiment faire que des cours de méthodologie de ça. Et ça, normalement, ça fait augmenter rapidement ses notes.
J'aimerais même rajouter quelque chose, si vous êtes... parce que des fois, on s'entoure d'entourage de gens compétitifs, et quand on ne l'est pas, en fait, ça peut être difficile, donc n'hésitez pas, en fait, à ne pas rentrer dedans. Parce que ça risque juste d'être toxique pour vous si jamais vous ne l'êtes pas. Moi, ça m'est arrivé à un moment donné, c'était juste avant un examen, et j'étais remplie de gens qui étaient très stressés pour ça. Et en fait, j'étais pas aussi stressée de base, et ça m'a mais vraiment stressée à fond, alors que y avait pas de quoi stresser autant. Donc n'hésitez pas, en fait, à vous retirer d'un petit peu de tout ça, essayez de vous mettre dans des endroits un petit peu plus sains pour vous, qui vous aident plus quand c'est sur ça, et voir autre chose que... Tout à fait, voilà. Et s'il te plaît, Marianne, passons à la seconde question.
Alors, juste pour revenir peut-être à la compétition, vraiment, il faut s'éloigner de ces gens-là, parce que pour vous dire, en tout cas, bon, Rodrigue, tu as bien vécu le droit, mais pour le coup, moi, il y a une personne qui en L2, tout le temps, cherche à savoir les notes des autres. Et arrivée en L3, quand elle a compris que c'était pas les notes, elle a cherché à savoir les stages des autres. Voilà, donc ça, c'est une compétition pour savoir qui c'est qui a eu le meilleur stage. Donc...
Et justement, peut-être avant qu'on finisse sur la compétition, comment toi, justement, Faustine, t'es pas rentrée dedans ? Parce que tu nous disais comme quoi, faut pas rentrer dedans.
Oui, tout à fait.
Et comment t'es pas rentrée dedans, justement ?
Eh bien, en fait, moi déjà, je suis vraiment d'un caractère que j'aime pas ça, la compétition. Vraiment, c'est quelque chose qui ne me booste pas. Autant les projets, juste au contraire, moi, c'est la solidarité et voir les autres et pouvoir aider les autres qui me boostent. C'est un peu gnangnan, dit comme ça, un peu niais, mais c'est un peu la réalité. Moi, je préfère bosser avec quelqu'un et bosser sur le travail ensemble et filer tous mes cours si c'est possible. Enfin, ça me met mieux, ça met dans un meilleur mood. Donc déjà ça, et j'ai envie de vous dire, entourez-vous de gens qui pensent comme vous, et si jamais ce n'est pas possible, parce que c'est pas toujours possible, on connaît pas forcément, ne rentrez pas dans la dynamique et ne vous forcez pas à rester avec les gens compétitifs. Ça veut pas dire que vous les abandonnez, c'est plus vos amis, etc. Vous pouvez rester amis avec eux et leur dire, écoute, moi ça me stresse, je comprends totalement ton fonctionnement et tu fais ce que tu veux, mais moi c'est pas ce qui me convient. Donc si tu veux, on pourra se voir autrement que pour les cours. Et quand on parle ensemble, on parle d'autre chose que de la compétition. Sinon, moi, ça m'est très mal.
C'est clair, il faut essayer au maximum de favoriser l'entraide. Alors bien sûr, sans abus, il faut se trouver des amis fiables, pas des gens qui vont vous pigeonner et vous demander que les cours à la fin du semestre.
Attention.
Mais à partir de ce moment-là, c'est cool. Et c'est vrai que là, on parle de compétition, on parle de se comparer, mais même envers nous-mêmes, ne pensez qu'aux notes. C'est mon troisième conseil, ne pas penser qu'aux notes. Parce que souvent, on est amené à ça, puisque pourquoi on travaille ? Pour qu'à la fin du semestre, on ait un relevé avec toutes nos notes, avec une moyenne et parfois avec une mention, en fin de licence, c'est le cas. Ouais. Mais vraiment, ne pensez pas qu'à ça, parce qu'il ne faut pas oublier que l'université, c'est une sorte de squelette avec des cours théoriques, des notes. Et ensuite, on va y ajouter tous vos projets, que ce soit des assos, que ce soit des projets perso, compte Instagram où vous parlez de cuisine, par exemple, ou bien une équipe de sport à laquelle vous tenez. Mais clairement, pensez aux notes. Je sais que ça a été quelque chose à laquelle j'ai vraiment pensé tout le temps. Et rien que juste me détacher de ça, ça a fait que je me suis sentie beaucoup mieux. Et se sentir mieux a fait que j'ai pu être plus productive et avoir même des meilleures notes, parfois.
Ouais. Moi, personnellement, j'ai jamais eu autant des bonnes notes que quand j'étais passionnée par le sujet sur lequel je travaillais, en fait. Donc, peut-être déconstruire et penser ça à l'envers, si je peux dire ça comme ça. D'abord, penser au projet et prendre du plaisir à faire ce sur quoi on travaille. Et ensuite, réfléchir à la note. De toute façon, c'est plus dans nos mains une fois qu'on a travaillé dessus. Donc,
ouais, parce que moi, j'ai envie de rajouter que, en fait, la note, c'est un problème qui est vraiment très français. C'est-à-dire que, bah, tu viens de le dire, Marianne, on travaille pour la note. Sauf qu'en fait, on ne travaille pas pour la note, on travaille pour rendre quelque chose, pour travailler, pour se faire plaisir ou pas. Mais avant la note, c'est d'abord s'intéresser au sujet. En fait, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'il y a une note. Une note, elle vient dire qu'est-ce que tu peux améliorer dans ton travail, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été. Elle n'est pas là pour dire si ton travail est bien ou pas. Ce n'est pas une finalité, la note, en fait.
Si je peux me permettre, il y a des projets sur lesquels on est, si je peux dire ça comme ça aussi, forcé de travailler dans un cursus. Il y a parfois des matières qui nous intéressent moins que d'autres, des projets qui intéressent les profs plus que nous. Et parfois, on est un peu contraint de travailler sur quelque chose alors qu'on n'a pas envie forcément. Ça peut être intéressant de se prêter au jeu et de découvrir. Moi, j'ai découvert des trucs comme ça. Mais après, si tu as une mauvaise note sur quelque chose qui ne t'a pas du tout intéressé, sur lequel tu n'étais pas... motivé pour une raison ou pour une autre, faut savoir aussi prendre un peu du recul.
C'est clair, parce que si vous aimez pas l'histoire des bateaux au 6e siècle avant Jésus-Christ, enfin, c'est pas la peine de forcer, ça peut arriver des c'est fois ça. Qu'on se dise, bon, allez, une mauvaise note, mais à côté, bah, je sais pas, je suis passionnée par l'histoire de l'Angleterre au 16e siècle, et bah, là-dedans, je vais me rattraper. C'est aussi une question de savoir où est-ce qu'on met la priorité, où est-ce ça, qu'on se fait plaisir. Parce qu'il faut se faire plaisir soi-même à l'université, enfin, on va à l'université parce qu'on a un minimum envie d'y être, que ce soit pour les cours ou même pour bah, ce qui va en résulter après, les métiers, les masters, tout ça. Donc autant se faire plaisir. Avant tout.
Et moi, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que tu dis vous vous rattraperez ailleurs, et des fois c'est, tout le monde ne se rattrape pas, des fois c'est difficile. Et ce que j'ai envie de rajouter, et j'en parlais un petit peu tout à l'heure dans le cadre de Sciences Po, du coup, en fait, la note, c'était un peu l'identité de quasiment tout le monde. Et en fait, une note, ça ne vous définit pas. Une note, c'est juste fait pour mettre un truc sur le travail et essayer de pas de donner une valeur, mais de comptabiliser et de faire une hiérarchie entre ce qui est attendu et ce qui n'est pas attendu. Mais ce n'est pas vous, en fait, la note.
Donc, puis, comme tu disais, une note, c'est pas une fin en soi. Avant tout, la note, elle est pour nous. Et puis surtout, c'est pas grave si vous avez des mauvaises notes. Genre,
bah oui.
Il n'y a pas votre futur employeur qui va arriver et qui va vous faire « Ah là, j'ai vu ta note en droit constitutionnel, t'avais 8 !» 8, je t'embauche pas, quoi.
Mais les bateaux, ça, avant le 6e siècle avant Jésus-Christ, ne t'intéressaient pas.
Personne ne va aller chercher vos bulletins scolaires pour récupérer vos notes, quoi. Donc, calmez-vous, vous avez une mauvaise note, c'est pas grave. Vous avez deux mauvaises notes, vous arrivez pas dans une discipline, c'est pas grave.
La réorientation existe.
Non, mais enfin, au-delà de la réorientation, il n'y en a pas forcément besoin d'en arriver là, parce qu'il y a d'autres problématiques que derrière la réorientation. Mais... il y a déjà ça. Et puis, si, par exemple, vous connaissez vos limites, vous ne rentrez pas forcément dans le moule scolaire, vous savez que vous ne pouvez pas aller à plus de 13 de moyenne. Ça peut arriver, ou plus de 12, je ne sais pas. Vous êtes bloqué parce que vous n'arrivez pas à correspondre au moule scolaire. Vous pouvez très bien valoriser autrement, par des engagements notamment, qui justement permettent à ce moment-là de compenser. Vous n'allez pas perdre de plus de notes que ça, parce que vous avez des capacités de travail normalement qui sont les vôtres, et vous pouvez en parallèle, et comme ça vous permet aussi de justifier de « Ah, j'ai 13 ou j'ai 12, mais en parallèle je fais ça ».
Tu aurais des exemples, toi, Rodrigue ?
Bah, vous pouvez aller dans des associations, vous pouvez également vous engager en tant que bénévole, vous pouvez faire toute forme d'action comme ça, vous pouvez prendre aussi du temps pour vous accorder, enfin, parce qu'il faut comprendre aussi que la note, elle s'ancre aussi dans un moule. Enfin, et tout le monde ne correspond pas au moule, et c'est pas grave de pas correspondre au moule, et vraiment, faut s'écouter, et faut pas s'en vouloir.
C'est sûr.
Laissez-vous le temps d'apprendre.
C'est sûr, et aussi pour rassurer tout le monde, je pense que tout le monde autour de la table, on connaît tous quelqu'un qui a redoublé à l'université. Même nos profs en droit nous disent « Oui, moi j'ai redoublé à l'université, ça m'est arrivé. » Enfin, c'est normal des fois aussi de se prendre une claque, d'aller au rattrapage, d'aller de redoubler, même de redoubler des fois plusieurs années. Et ça ne nous empêche pas par la suite de faire des grandes choses. Enfin, on s'en fout que vous finissiez la fac en 5 ans cursus classique ou que vous la finissiez en 7-8 ans. Et... parce que juste des fois, vous avez des moments de césure où vous arrêtez tout, voilà.
Et puis même, moi, j'ai envie de vous dire, le redoublement, c'est pas une claque. Enfin, c'est pas forcément qu'une claque. Vous pouvez aussi le prendre comme on me donne l'opportunité de faire mieux. Tu vois.
C'est une chance aussi parce que ça veut dire qu'on... parce qu'un redoublement, ça coûte de l'argent.
Oui.
Oui.
Donc, n'oubliez pas que le redoublement, c'est avant tout une chance. C'est on vous donne la possibilité de faire une année en plus. Vous pouvez aussi le voir comme ça. Mm.
C'est vrai qu'il y a un peu un tabou avec l'échec comme ça. Mais pour revenir sur les notes, moi je sais que je suis dans une filière qui est assez moderne. C'est-à-dire que il n'y aura pas forcément les réponses sur Internet. C'est de la linguistique, c'est quelque chose qui est... Il y a encore des recherches en cours. C'est pas comme le droit où il y a déjà des choses préétablies, si je peux dire ça comme
c'est
ça.
C'est pas classique.
Exactement. Et ça nous arrive souvent d'avoir des cours sur des théories qui sont très nouvelles et qui appartiennent à nos profs, justement. Donc, les notes sont assez subjectives. C'est soit tu comprends la manière de penser de ton prof, soit tu la comprends pas et ça passe ou ça passe pas. Donc,
effectivement. De toute façon, les notes, ce sera pas le pilier à l'université. Et comme c'est pas le pilier, on va parler d'un truc où... Alors ça, c'est un peu... ça dépend des gens. Il y a des gens qui vont vous dire c'est pas grave, il y a des gens qui vont vous dire c'est pas bien, mais révisez au dernier moment. Au fond. Certes, des fois, ça peut vous apporter des mauvaises notes, mais franchement, quand on est dans la merde et tout, ça peut être cool. Moi, je sais que quand je demande aux gens qu'est-ce qu'il faut pas faire à l'université, tout le monde me dit « Ouais, bosse régulièrement et surtout, ne révise pas au dernier moment. » Mais j'avoue que, je sais pas pour les gens autour de la table, mais moi, les deux seules fois où j'ai révisé au dernier moment, première fois, j'ai eu 14, deuxième fois, j'ai eu 18. Alors peut-être que c'était des matières faciles, hein, j'en sais rien, mais... Globalement, c'est ce qu'on me rapporte, ne pas réviser au dernier moment parce que on est trop stressé, parce qu'on n'aura pas le temps de tout intégrer. Tout le monde me dit, oui, la irrégularité, c'est la clé de la réussite, certes. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous révisez, vous, au dernier moment? Est-ce que vous le conseillez ou pas du tout?
Alors, moi, pour mon cas, ça dépend. J'ai quand même, cette année, j'ai quand même été un petit peu beaucoup plus sur la team dernier moment. Et j'ai validé. Hein, j'ai validé mon année, etc. Après, évidemment, en fait, c'est aussi, je pense que c'est une question de vous connaître. C'est-à-dire que si vous savez... Moi, je sais que j'avais d'autres choses que je voulais faire et que je suis plus efficace aussi sous pression du dernier moment. C'est-à-dire que je sais que maintenant, je vais éviter tout ce qui est inutile. Et il y a dernier moment et dernier moment. Il y a entre réviser le matin même et réviser deux jours avant.
Moi, je dis dernier moment, c'est du style le soir pour le matin. Enfin, moi, quand je me suis mise à bosser, c'est à 20h le soir, j'ai fini à 4h du matin, je suis allée dormir une heure et après, c'était reparti. Je suis allée partir à 8h.
Je l'ai déjà fait aussi.
Okay.
Oui, oui, ça, j'ai déjà fait aussi. Mais c'est surtout que, par exemple, j'ai des examens qui s'enchaînaient sur 3-4 jours et j'avais des trucs beaucoup de trucs à réviser. Donc, ça, il y a dernier moment et dernier moment. Si l'examen est une heure avant, je considère que c'est plus vraiment du dernier moment, c'est vraiment essayer de sauver le radeau qui est en train de couler. Vous pouvez essayer, hein, mais c'est aussi une question de vous connaître. Si vous savez que la matière c'est quelque chose c'est une question, je pense que ça après c'est vraiment très subjectif en fonction des gens. Si vous la matière vous avez vraiment des grosses difficultés, non, vous n'allez pas réviser au dernier moment. Si vous voulez vraiment la valider, non, il faut pas la réviser au dernier moment parce qu'il va falloir que vous la compreniez, la matière, en fait, tout simplement. Si vous avez plus de facilité, plus d'intérêt en tout cas sur cette matière, vous pourrez la réviser un petit peu plus. Après, ça dépend des profils, ça dépend comment
ça
vous
apprenez.
Ça dépend
de ton type de mémoire aussi, je
Exactement.
Pense. Exactement. Si t'as une mémoire auditive, c'est clair que ça va être beaucoup plus simple pour toi que si t'as une mémoire où tu dois tout réécrire, enfin réécrire un cours de 80 pages du soir au lendemain. Bon.
Après, je sais pas, parce que là, moi, ça fait 2 ans que je révise au dernier moment. Mais quand je vous dis que je révise au dernier moment, c'est je révise avant de rentrer dans la salle, 2 heures avant.
T'as juste du talent, Rodrigue, en fait.
Non, ça n'est pas du talent. C'est juste que, en fait, il y a aussi ce truc-là, c'est qu'en révisant comme ça, on devient hyper pragmatique. En tout cas, moi, c'est ce que ça me fait. Oui. C'est qu'on arrive en face de la copie, on est en mode, OK, bon, j'ai ce sujet, pas panique, il va falloir que je sorte un truc, je vais sortir quelque chose, je sais pas ce que je vais sortir, mais je vais sortir quelque chose. Et après, en fait... déjà bien lire le sujet, prendre le temps d'essayer de le comprendre. Si vous voyez que vous avez des mots de clé, ok, bien les repérer, dire comme quoi vous les avez repérés. Et après, surtout, ne pas oublier, axer sur la méthodologie. Moi, en fait, c'est ça qui m'a sauvée. Par exemple, je savais qu'en droit administratif, tout le monde révise. Il y en a plein qui bossent énormément et qui perdent énormément de temps sur cette matière. Et en fait, je n'ai pas trop révisé les majeurs. Et parce que je savais que j'allais avoir des notes pas terribles. Mais j'ai essayé de gratter tous les points en méthodologie. Et sur les mineurs, bah, j'ai révisé un peu plus longtemps. Et je m'y consacrais plus. Comme ça, déjà, le nombre de pages de cours était plus petit. Enfin, on était sur des cours de 80 pages. Alors que sur les majeurs, on était à 200 pages. Enfin, 200 pages, je ne peux pas réviser ça à la dernière minute. Et en plus de ça, déjà, tous mes amis qui révisaient, ils avaient du mal. Donc, pragmatique,
ouais,
c'est pas grave. J'essaye de retenir au moins le plan. Essayer de retenir la structure du plan, souvent. Parce que le plan, derrière, il y a toute une logique. Et ça, c'est important.
En fait, il y a toute une stratégie aussi à mettre en place, tout simplement, comme toi, tu as fait. Et être pragmatique. Si vous avez des matières qui vous passionnent, genre allez-y, foncez, mais si vous n'avez pas assez de temps aussi, soyez stratégique. C'est-à-dire qu'il y a forcément des choses dans le cours qui sont inutiles. Apprendre pour apprendre, ça ne sert à rien parce que ce que vous risquez de faire, c'est recracher la connaissance. Or, vous n'êtes plus au lycée, vous êtes en études sup, et en études supérieures, on ne vous demande pas de recracher des connaissances. Et vous ne serez pas valorisé parce que vous recrachez le cours. Il vaut mieux faire une analyse et bien axé sur les mots du sujet, comme tu dis, Rodrigue, et justement, bien essayer de comprendre le sujet, etc., et bien comprendre le plan du cours, quels sont les mécanismes derrière, plutôt que de savoir par cœur toutes 180 pages sur 200.
Après, je ne vous encourage pas à réviser au dernier moment, bien sûr. Parce que ça met quand même un stress énorme et ce n'est pas agréable. Mais c'est pas une fin en soi. Et la question de la stratégie que t'abordais, j'avais une amie, elle avait 14 matières par semestre. Et parfois, ils avaient le cours la semaine d'avant l'examen. Mmh. Et du coup, elle avait vraiment pensé ses cours en mode stratégie. Parce qu'à l'université, on n'a pas forcément les moyens. Et en fait, résultat, du coup, ça se sent aussi au niveau des profs, au niveau de l'apprentissage, au niveau de tout ça. Donc, n'hésitez pas à être stratégique, à privilégier certaines matières, à ne pas privilégier d'autres. Et surtout, ce que j'ai remarqué avec les études à la fac, c'est les mineurs, c'est hyper important.
Oui.
Ça peut vraiment vous sauver des années. Et ça peut être une stratégie de miser sur ces mineurs et de moins miser sur ces majeurs.
En fait, ce qu'il faut, c'est bosser tout au long du semestre TTD pour les majeurs, histoire d'avoir une moyenne pas trop dégueu pour si jamais au partiel tu coupes.
Et puis comprendre quand même la majeure.
Ouais.
Parce que vous pouvez aussi très bien avoir une majeure et tomber sur la toute petite partie du cours.
Tu sais, le petit A de la section 1, de la sous-section, du sous-chapitre, de la grande partie 4 et tout, ouais.
On sent les juristes qui se comprennent.
Pour le coup, Lucie, moi, on n'est pas en droit. Du coup, c'est pas exactement ça, je pense. Mais
Alors, moi, perso, j'ai... aucun talent. Réviser à la dernière minute, c'est pas...
Voilà, c'est très intéressant, explique
pas du tout pour
donc
moi.
Donc tu déconseilles.
En fait, mais ça c'est pas que dans les études, hein, c'est dans ma vie en général. Je sais pas être bonne dans un truc quand je le commence. J'ai besoin de le taffer, de le taffer, de le taffer, de le taffer, sinon ça
de
marche
l'intégrer.
Pas. C'est ça. Donc moi en fait ce que je fais c'est que pendant le cours je suis très active, je participe beaucoup, 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 beaucoup. Et on a eu la chance dans ma filière, surtout en M1, là, d'avoir beaucoup de travaux de groupe. C'était beaucoup des dossiers à rendre. Donc, si ça peut apporter une nuance...
Ouais. Moi, ce que je peux conseiller aussi, en rebondissant sur le groupe, c'est travailler en groupe, ça peut être genre vraiment très efficace. Mais travailler en groupe avec des gens qui vous conviennent. Moi, un truc tout bête, mais Mais n'ayez pas peur d'être ridicule quand vous révisez. Moi, je fais beaucoup de blagues. Je fais des scènes de théâtre. Je les chante, mes cours. Alors, je chante vraiment comme une casserole. Mais n'hésitez pas. Faites des petites pièces de théâtre avec vos cours. Faites des vannes. Ouais. Je sais pas. Moi, j'ai parlé de Durkheim. Mais Durkheim, sur le suicide, voilà. Je vous laisse imaginer toutes les blagues noires qu'on a pu faire dessus.
Trigger warning, le suicide.
Vraiment. Terrible, terrible. Mais au moins, j'ai retenu.
En tout cas, merci beaucoup pour tous vos conseils. Ce qu'on va retenir, en tout cas, c'est que l'université, c'est un lieu qui va vous permettre d'acquérir des connaissances théoriques et de rencontrer des potes ou votre futur réseau également. Que l'université fait partie de votre vie, mais que ce n'est pas votre vie. Donc, ne stressez pas, n'essayez pas d'entrer dans une compétition. C'est un tremplin qui vous permettra de trouver votre voie, d'accéder à des opportunités intéressantes par la suite, etc. En tout cas, merci beaucoup à tous.
Merci.
Et merci d'avoir écouté. Plein de bisous.
Voilà, voilà quelques conseils que on vous passait en table ronde pour pouvoir réussir votre rentrée universitaire 2023-2024. Voilà, alors on va continuer l'émission en musique avec le titre The Master Wore a White Robe. Et puis après, vous retrouverez l'instant coup de gueule avec Steven. C'était un titre de Yoni Maras que vous venez d'entendre à l'antenne de Radio Campus Orléans. Il est midi 42 et c'est l'heure de retrouver Steven pour son petit coup de gueule du jour. Bonjour Steven.
Bonjour Rodrigue, bonjour auditrices et auditeurs. Alors, je voulais commencer par une petite anecdote. J'ai un pote qui était en vacances et qui veut passer chez moi. Bon là, jusque-là, rien de fou. Donc il vient et là, il passe la soirée posé dans mon canapé avec son tel. Certes, je m'attendais pas à faire un projet X avec lui, mais frérot, si t'as rien à branler, rentre chez toi, moi j'ai des trucs à faire. Tu sais, il y a toujours un moment où les gens doivent partir et ils partent pas. Et je me suis retrouvé coincé chez moi avec un gars, à ce moment-là c'était plus mon pote, hein, qui était sur mon canapé et qui captait rien à mes messages le sommant de quitter les lieux. Et là je me suis senti comme un pays africain qui voit les pays européens squatter chez eux sans permission. Oui, évidemment, étant une personnalité importante, hein, j'ai tout de suite fait l'analogie entre ma vie et le Niger. Parce que oui, dans les champions du « je suis partout chez moi », tu peux mettre Macron, qui organise un conseil de défense à la suite du coup d'État nigérien du 26 juillet dernier, perpétré contre le président Mohamed Bazoum. Quand j'ai appris ça, je me suis dit deux choses. Déjà, il y a un gouvernement au Niger. Excusez-moi, hein, et je pensais que le Niger était dirigé par les entreprises d'exploitation comme l'Exareva, qui alimentent en partie les centrales nucléaires en France. Non, mais ma question est légitime. Le Niger, c'est le quatrième exportateur d'uranium au monde, et pourtant un des pays les plus pauvres. Quand tu maîtrises si peu ton territoire et ses ressources, je doute qu'on puisse parler de véritable gouvernement. Ou alors, c'est un gouvernement sous le joug de l'impérialisme français. Et là, je comprends mieux. La deuxième chose que je me suis dit, c'est « mais de quoi il se mêle ?» T'as l'Union européenne qui estime que le renversement est une atteinte grave à la stabilité et à la démocratie. Bon, il va falloir qu'on m'explique la définition de démocratie parce qu'elle a l'air de pas mal changer selon à qui on l'applique. De ce que j'ai vu, le coup d'État est pas mal soutenu par la population. Donc si le peuple valide la prise de pouvoir, qui d'autre a son mot à dire? Macron, lui, il parle de coup d'État illégitime. Bon, lui, je sais même plus quoi dire. Tu sais, Macron, c'est ces gens qui t'insupportent en disant tout le temps « Non, mais moi, je suis pas d'accord en vrai. » Mais personne t'a demandé ton avis, en fait, Manu. L'argument avancé pour l'organisation du Conseil de défense est la présence des quelques 1500 soldats français de la base aérienne projetée à Niamey. Ouais, j'en doute. Hein. Le gouvernement s'en fout des millions de Français. J'ai du mal à croire qu'ils aillent organiser un Conseil de défense pour 1500 gars. La présence de la France au Niger, c'est 5 accords de coopération militaire signés entre 1977 et 2020. Aujourd'hui, le Niger souhaite s'en affranchir en mettant en avant l'attitude désinvolte et la réaction de la France face à la situation interne qui prévaut dans le pays. Oui, c'est vrai. C'est une des raisons qui justifie la rupture. Ils auraient pu aussi citer l'exploitation, la corruption, l'expropriation, le pillage de masse, la prise d'otages économiques, l'histoire coloniale avec l'Occident. Mais bon, la raison officielle de la présence de la France, c'est la lutte contre le djihadisme. Mais parce qu'on ne change pas un impérialisme qui gagne, le véritable but de la France est de permettre la perpétuation du pillage de son ancien précaré africain. Maintenant, la France et l'Union européenne souhaitent suspendre leurs aides financières. Et ils menacent de faire une guerre économique au Niger, comme ils ont fait avec la Russie pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Alors quelqu'un peut leur dire que ça ne fonctionne pas, hein, parce que la Russie aujourd'hui, ça va. Hein. Pour pouvoir continuer leur pillage, la France est prête à tout. Mais l'Union des pays d'Afrique soutient au Niger a pas mal refroidi leurs ardeurs. D'autant plus que ces pays revendiquent un attachement à la Russie. Face à cette mobilisation africaine, j'ai qu'une chose à dire à l'Europe, chais. En ce moment, du 22 au 24 août, se déroule le sommet des BRICS, donc Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, pour réduire l'influence du dollar dans ces régions. Donc le dollar qui est le symbole de l'Amérique, allié de l'Europe. Donc encore une fois, chais. Bon, je finirai sur un petit conseil. Avant d'aller vous imposer chez les autres, pensez à faire le ménage chez vous. L'été, c'est la bonne période pour tout ouvrir et virer les mauvaises ondes, les nuisibles de chez vous. Qui sait, peut-être qu'en faisant tous le ménage, on réussira à balayer le capitalisme. Merci de m'avoir écouté.
Et merci Steven pour ce petit partage d'expérience qui s'est transformé en explication de la situation au Niger. Il est midi 46 et pour la suite de l'émission, je vous propose d'écouter le titre « Borrowway » de Tong de Miwi Lee.
Thank you.
Et c'était le titre style air que vous venez d'entendre à l'antenne de Radio Campus Orléans. Il est midi 58 et on va pas tarder à se quitter. À 14h, retrouvez la science infuse. Dès 15h, ce sera le moulin à parole. Puis à 17h, pensez le sport. Et puis voilà, c'est à peu près le programme que vous retrouverez cet après-midi sur les ondes de Radio Campus Orléans. En tout cas, restez avec nous, il est midi 58 et vous commencez à entendre quelques sons. Ce sont le son de la musique Macht Atimo de Plaster.